Bonjour, je suis Véronique Brard, enseignante en Voice Dialogue, et je vais vous parler aujourd'hui de ce mystérieux processus d'égo-conscient. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le développement d'un processus d'égo-conscient est le but du Voice Dialogue. C'est ce qui distingue cette méthode de toute autre et ce qu'elle peut apporter en complément à toute autre. Mais qu'est-ce donc qu'un processus d'égo-conscient? Pourquoi reprendre ce terme d'égo qui a si mauvaise presse? C'est ce que je vais tenter d'exposer dans ce podcast et je vais le faire en deux fois. Nous allons tout d'abord revenir sur la définition de l'égo avant d'expliciter ce que peut être le processus d'égo-conscient. Nous allons voir ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Et dans un second podcast, nous regarderons quels en sont les éventuels bénéfices. Égo et égo-conscient. Il est intéressant de revenir sur ce mot « égo ». Ce terme a été utilisé par Freud pour désigner la fonction exécutive de la psyché. Essentiellement, le jeu qui regarde les différentes alternatives et décide. Celui qui se positionne dans la société et dans le monde. Celui qui est le capitaine du bateau, ou disons, ce jeu auquel nous nous référons lorsque nous pensons être le capitaine du bateau. En tant que fonction exécutive de la psyché, l'ego fait réellement un très bon job. C'est un concept qui a beaucoup servi à comprendre la psychologie de l'être humain. Lorsque Hall et Sidra Stone ont choisi le terme d'égo-conscient, ils ont voulu honorer le travail de leurs prédécesseurs et construire une continuité. Cette fonction exécutive existe, que nous en soyons conscients ou non. Quelqu'un décide en nous, et ce qui décide en nous est, dans sa définition première, l'ego. En Voice Dialogue, nous nommons cet ego ordinaire l'ego fonctionnel. Chacun d'entre nous a un ego fonctionnel, bien sûr. Souvent, dans une démarche spirituelle ou de développement personnel, l'ego est vu comme ce dont il faut se détacher pour laisser opérer plus grand que soi. C'est une démarche respectable lorsque l'ego est considéré comme ce qui, en nous, est attaché au pouvoir sur l'autre, à l'orgueil, à l'arrogance, à avoir raison, ou tout simplement au rationnel pur et dur. Nous comprenons alors que de nombreuses traditions spirituelles en sont venues à enseigner qu'une voie spirituelle véritable ne pouvait exister que lorsque l'ego avait disparu. Ces enseignants et les personnes qui les suivent ont le sentiment que cet ego peu recommandable doit céder sa place à une part plus profonde de l'être. L'ego doit disparaître pour pouvoir faire l'expérience du divin et s'abandonner à lui, ou tout simplement pour faire l'expérience du lâcher-prise. C'est une façon assez partielle de considérer l'ego. Tout ce qui bloque notre évolution est considéré comme venant de lui, et tout ce qui va dans le sens de cette évolution comme ne venant pas de lui. Si nous considérons l'ego pour ce qu'il est, le groupe de copersonnalités qui domine et décide chez tout un chacun, cela peut s'expliquer. Notre civilisation ayant fait la part belle à la raison, les copersonnalités rationnelles ont souvent cherché à dominer et rejeter les aspects non rationnels ou invisibles de la réalité. Quant à l'orgueil, la volonté de pouvoir sur l'autre, le fait de vouloir avoir raison, ce sont malheureusement les séquelles des blessures et des traumas. Cette vision partiale et partielle de l'ego peut justifier le fait de le voir comme un obstacle vers une vie spirituelle ou tout simplement comme ce qui nous empêche de vivre ensemble. Dans le vocabulaire du Voice Dialogue, l'ego est et reste ce qui, en nous, décide. L'ego fonctionnel est le groupe de copersonnalité primaire, le système primaire auquel nous nous identifions et qui prend des décisions de façon très automatique. L'ego fonctionnel est le résultat de notre conditionnement, celui que chacun d'entre nous reçoit dès sa naissance, dans sa famille, son environnement et la société dans laquelle il vit. Nous pensons et agissons de façon automatique selon cet ego fonctionnel. Pour sortir de ces automatismes, nous avons besoin de prendre conscience de cet ego et de ce qu'il fait. Il ne s'agit plus cependant de le supprimer, on ne peut pas supprimer l'instance qui en nous décide, il s'agit de se désidentifier, c'est-à-dire de se décaler de ce système primaire. Assez intéressant à noter lorsque l'on comprend le fonctionnement de la psyché, ce que nous voyons chez les autres, le plus souvent, n'est pas leur système primaire, mais les parties reniées que celui-ci entraîne. Cela explique aussi que l'ego, dans le vocabulaire commun, ait été associé à l'égoïsme, l'orgueil, l'arrogance ou le besoin inconscient de pouvoir sur l'autre. Venons-en au processus d'ego conscient. Un processus d'ego conscient a pour but de devenir conscient de cette instance qui, en nous, décide et de reprendre notre pouvoir sur le groupe de copersonnalité dont elle est constituée. Ce processus nous amène à embrasser toutes nos copersonnalités sans nous identifier à aucune d'entre elles. C'est possible grâce à la structure même de la psyché. Chaque copersonnalité a un ou plusieurs opposés. Lorsque, énergétiquement, nous nous tenons entre ces opposés, nous ne sommes plus identifiés ni à l'un ni à l'autre. Se désidentifier de notre ego fonctionnel devient alors possible. Le processus d'ego conscient devient, à ce moment-là, un champ d'expérience, d'investigation et de transformation. Nous faisons l'expérience pratique, physique, énergétique, d'incarner successivement deux énergies opposées, puis de les ressentir en même temps dans le corps, avec une compréhension claire de ce qui se passe. Notre mental rationnel est donc un bon point d'appui, car grâce à lui, il est facile de comprendre la notion de copersonnalités opposées. Cependant, lui-même étant une copersonnalité, ce processus nous demande de nous en décaler. C'est là où un processus d'ego conscient va questionner notre jeu habituel et pratiquement notre identité. Voici une citation d'Alessandra Stone. Nous avons la profonde conviction qu'il s'agit là d'une nouvelle sorte d'abandon qui conduira à une nouvelle qualité d'êtres humains. Nous pensons que cet abandon au processus lui-même et l'exigence d'apprendre à progressivement embrasser toutes les copersonnalités sans s'identifier à aucune constitue un abandon à l'esprit. Pour nous, il s'agit d'un abandon à une vision de l'esprit plus vaste et plus globale que tout ce que nous avons connu jusqu'ici. C'est un abandon à l'intelligence qui vit en nous et hors de nous, dont le but semble bien être l'évolution de toute conscience. Comme il s'agit d'un processus et qu'il n'existe pour autant que nous puissions le déterminer aucun état ultime final de conscience, il s'agit d'un abandon à la vie elle-même. Fin de citation. Pour mieux comprendre ce processus d'ego conscient, regardons déjà ce qu'il est. Il est un processus, c'est-à-dire que c'est une évolution de conscience qui se fait en spirale et dure tant que nous vivons. Nous développons toujours ce processus en fonction d'une copersonnalité précise. Nous ne pouvons pas dire « j'ai un ego conscient ». Nous pouvons dire « en ce moment, par rapport à ma copersonnalité active, un certain processus d'ego conscient est présent. Puis, l'instant suivant, nous allons penser à un dossier à terminer en urgence. Nous allons devenir totalement vulnérables et cette vulnérabilité va nous pousser à nouveau dans notre partie primaire, à savoir, dans cet exemple, l'actif. L'actif va reprendre la barre à 100% ou à 90% si nous avons de la chance. À ce moment-là, nous n'avons plus la main. Ce qui reste, c'est la vision consciente. Nous pouvons voir que nous sommes déstabilisés et happés par notre actif. Cela nous donne une chance de pouvoir revenir à un processus d'ego conscient en fonction de cet actif un peu plus tard. Notre partie primaire, c'est-à-dire notre ego fonctionnel, vient automatiquement nous protéger lorsque nous nous sentons vulnérables. Lorsque nous avons peur de perdre l'amour des autres, de déplaire ou de ne pas réussir. C'est la vie. La vision consciente nous donne la possibilité de voir ce qui se passe en nous sans en être affecté. Même si nous ne pouvons pas encore faire les choix que nous désirons, nous savons qu'ils existent. Cette vision consciente nous permet d'accepter qui nous sommes sans nous accabler parce que nous ne sommes pas encore comme nous le voulons. Le processus d'ego conscient est un processus fluctuant. Il peut s'évanouir dès que notre vulnérabilité est touchée. Le rôle de la vision consciente est alors extrêmement important. Nous la définirons un peu plus loin. Point 2. Pour compliquer les choses, ce processus d'ego conscient n'évolue pas de manière linéaire. Il peut être présent à certains moments et non à d'autres. Il peut être présent dans certains environnements et non dans d'autres. Par exemple, une éducatrice spécialisée pourra avoir un processus d'ego conscient en relation avec sa mère indulgente à son travail et mettre les limites nécessaires dans ce contexte. Mais elle pourra, à la maison, avec ses propres enfants, ou en présence de son mari, se retrouver identifié à cette copersonnalité. Cependant, la conscience du va-et-vient entre la mère indulgente et peut-être une copersonnalité davantage tournée vers prendre soin d'elle-même lui permettra de se décaler, à la maison également, de cette mère indulgente et permissive. Surtout si elle voit les conséquences d'une telle identification. En général, un sentiment peu agréable que les autres profitent de nous, des sentiments de victime. Troisièmement, ce processus d'ego conscient évolue en permanence. Si nous revenons au schéma de base de l'évolution de la conscience selon Hall et Sidra, cette évolution est le résultat de trois sortes d'expériences. L'expérience des copersonnalités, celle de la vision consciente, et celle de l'ego conscient. Lorsque la vision consciente s'affine, le processus d'ego conscient évolue. Lorsque les copersonnalités passent par leur propre processus de transformation, le processus d'ego conscient évolue également. Et lorsque celui-ci évolue, les copersonnalités et la vision consciente évoluent en retour. Toutes ces expériences sont interconnectées. Disons qu'une fois initié, tout peut contribuer au processus de conscience. Nous nous réveillons un matin avec un rêve qui nous donne une nouvelle perception. Un événement survient, nous faisons une expérience, nous avons une interaction avec notre voisin, une conversation avec un ami, et notre processus de conscience forcément va évoluer. Ces déclics peuvent arriver d'un millier de façons différentes. En écoutant la radio, un podcast comme celui-ci, en regardant un film, en lisant un livre, nous avons toutes sortes de déclics qui modifient notre processus de conscience et notre manière de fonctionner. Parfois, en regardant un film, nous pouvons voir un personnage dont le système primaire est similaire au nôtre. Si nous sommes un peu séparés de ce système primaire, à ce moment-là, nous voyons quelqu'un d'autre agir suivant les règles de ce système primaire. Un processus d'ego conscient se met alors en route. Parfois, c'est une séparation claire, net comme un choc. Pour résumer, un processus d'ego conscient est constamment en transformation, en mouvement, en évolution. Rien n'est jamais défini ni déterminé, et il peut aussi disparaître très facilement. Quatrièmement, ce processus nous amène principalement à faire l'expérience consciente des copersonnalités. Plus nous en savons long sur nos copersonnalités, plus nous les avons expérimentées dans une séance de voice dialogue ou dans la vie, plus nous pouvons les gérer à partir d'un espace d'ego conscient. Nous apprenons à reconnaître les habitudes de chacune, les petits signes qui montrent qu'une copersonnalité a pris la main. Si nous sentons, par exemple, que nous continuons à travailler alors que nos épaules sont complètement nouées, nous nous doutons que notre perfectionniste est présent. Si je m'entends me dire « juste encore une petite chose à terminer et tu te sentiras tellement mieux », je sais que l'actif mène le jeu. Je peux alors privilégier un processus d'ego conscient par rapport à cette partie primaire que je reconnais et, si je peux prendre soin de la vulnérabilité particulière qu'elle protège, je pourrais choisir de lui obéir ou non. Cinquième point, se décaler d'une énergie primaire demande du temps et de la persévérance. Cela ne se fait jamais en une fois. Si par exemple je me décale du parent responsable, lors de la première séparation, je ne vois qu'une toute petite partie de ce parent responsable. Je ne le vois pas dans sa totalité. 6 mois plus tard, lorsque je peux être davantage séparée de lui, je peux le voir d'une façon plus complète. Je peux voir par exemple qu'il est très lié à ma partie spirituelle, que pour moi la responsabilité est une tâche spirituelle. La responsabilité ne concerne plus seulement la famille ou le travail, elle est liée à la notion d'un travail spirituel à accomplir et j'en deviens consciente. Au fur et à mesure, nous devenons conscients de tous les niveaux dans lesquels nos parties primaires, notre ego fonctionnel, sont impliquées et à quel point leur champ d'application est large. Nos parties primaires sont comme une toute petite plante qui apparaît à un point du jardin, puis à un autre, et à un autre encore, et qui a en fait tout un réseau de racines souterraines que nous allons découvrir avec le temps. Prendre conscience des liens profonds entre toutes nos copersonnalités nous permet d'être plus respectueux envers elles, tout en continuant le processus de se décaler de leurs croyances. Sixième et dernier point pour ce qu'est le processus d'ego conscient, ce processus nous permet de nous tenir entre n'importe quel pair d'opposés. C'est une aptitude remarquable. Il n'existe rien d'autre dans le système psychique qui puisse réaliser cette performance. Un processus d'ego conscient peut accueillir tous les contraires, le masculin et le féminin, le yin et le yang, les informations du cerveau droit et celles du cerveau gauche. Il accueille à la fois tout ce qui est humain et tout ce qui vient des plans de l'âme, de l'esprit ou de l'univers. Un processus d'ego conscient n'est pas sélectif dans sa volonté de reconnaître tous les archétypes et toutes les copersonnalités qui en découlent. Il est sélectif dans la façon dont il les utilise ou ne les utilise pas. Embrasser une énergie veut dire accepter sa présence et la gérer, non la laisser libre d'agir. Grâce à leur organisation en polarité, nous pouvons garder le meilleur de chacune des énergies et éviter leurs pièges. Je peux, par exemple, être gentil, mais grâce à la présence de celui qui peut dire non, je n'irai pas dans la victime qui est l'un des pièges du gentil. Grâce au gentil, je n'irai pas non plus dans l'associable ou le malotru qui peuvent être l'un des pièges de celui qui peut dire non. Pour résumer ce qu'est le processus d'ego conscient, un processus d'ego conscient existe en fonction d'une énergie spécifique ou d'une polarité. Ce n'est pas un processus linéaire, il est par essence fluctuant. L'important est qu'il soit présent dans des moments de choix, si nous voulons effectivement que notre ego opérationnel ne dirige pas notre vie. Avec cette façon de prendre conscience de nous-mêmes, le processus d'égo-conscience s'élargit, devient plus puissant, il est capable de nouvelles réponses et d'une meilleure adaptation à ce qui se présente. Ce que nous appelons « je », au final, est toujours un mélange d'un ego opérationnel et d'un processus d'ego conscient en expansion, toujours en train de se redéfinir. Nous allons voir maintenant ce que le processus d'ego conscient n'est pas. Premièrement, ce n'est pas une copersonnalité. Il nous permet d'intégrer ou d'appeler des copersonnalités opposées et de les coordonner sans être identifiés ni à l'une ni à l'autre. Deuxièmement, ce n'est pas le soi supérieur. L'ego conscient n'est pas ce que nous nommons le soi supérieur. Le but d'un processus d'ego conscient est de pouvoir embrasser à la fois le soi, avec un grand S, et tous les petits soi ou petits moi, ou disons plutôt les copersonnalités humaines ordinaires dont certaines sont très loin d'être petites. Les copersonnalités, qu'elles soient ordinaires ou transcendantales, intéressées par la vie matérielle ou par la vie spirituelle, qu'elles canalisent les plans de l'âme ou de l'esprit ou qu'elles prennent soin de la vie quotidienne, sont toutes importantes en ce qui concerne un processus d'ego conscient. Pour avoir une vie harmonieuse, nous veillons à ce que chacune ait une place, même si cette place est non opérationnelle, si nous ne voulons pas que cette copersonnalité agisse, et nous prenons la responsabilité de chacune. Troisièmement, ce n'est pas non plus le soi jungien. Je vais citer Hal Stone. Un processus d'ego conscient nous amène à embrasser tous les groupes opposés au soi jungien, c'est-à-dire les copersonnalités ordinaires. Beaucoup utilisent ce concept du soi comme un but à atteindre. C'est un magnifique but. Lorsque l'inconscient comprend réellement ce concept et va vers lui, c'est magnifique. Mais si nous nous identifions à ce but, il n'existe plus de processus d'ego conscient. Nous regardons les autres parties de nous-mêmes et les considérons comme des parties de moindre valeur. Lorsque nous développons un processus d'ego conscient, nous ne jugeons pas nos différentes copersonnalités et surtout, nous ne les hiérarchisons pas. Nos copersonnalités peuvent continuer à juger, mais nous pouvons nous décaler de leur jugement et de celle-ci. Lorsque nous nous demandons si un certain processus d'ego conscient est actif chez nous ou si une copersonnalité a pris le dessus, regardez la présence ou l'absence de jugement nous donne la réponse. Ceci pour les personnes qui peuvent être en contact avec leur jugement. Lorsque les jugements sont reniés, lorsqu'ils sont interdits ou considérés comme néfastes, l'accès à ce repère essentiel est perdu. Fin de citation. Quatrième point, le processus d'ego conscient est différent de la vision consciente. La vision consciente a souvent été considérée comme étant la conscience elle-même. Elle est un témoin non affecté par ce qui arrive. Elle est cet état de témoin que nous cherchons à développer dans la méditation ou la pleine conscience, mindfulness. Pourquoi ne nous contentons-nous pas de la vision consciente? Pourquoi un processus d'ego conscient est-il nécessaire? Tout simplement parce que la vision consciente n'agit pas. La vision consciente voit et tout est parfait pour elle. Un processus d'ego conscient nous permet de choisir. Nous utilisons à la fois le plan de la vision consciente et celui de l'expérience des copersonnalités pour penser, réfléchir, agir ou ne pas agir, décider ou ne pas décider. Quelqu'un doit coopérer ou ne pas coopérer avec l'âme et l'esprit. Quelqu'un dirige notre véhicule, donne une direction, crée, co-crée. Nous sommes ensemble les co-créateurs de la vie et nous sommes les co-créateurs conscients ou inconscients de notre vie. Même si nous désirons devenir transparents à la présence infinie ou totalement perméables à la lumière, nous devons décider de ce chemin. Et cela se fera à partir d'un processus d'ego conscient ou à partir d'une identification à une partie de nous. L'un et l'autre peuvent être justes. Cinquième point, l'ego conscient n'est pas l'impersonnel. Beaucoup confondent ce processus avec le fait de devenir impersonnel. En fait, un processus d'ego conscient nous donne accès aussi bien à l'énergie personnelle qu'à l'énergie impersonnelle. Nous pouvons équilibrer ces deux énergies en fonction des circonstances et canaliser l'une ou l'autre en fonction de nos besoins. Sixième point, le processus d'ego conscient n'est pas l'observateur rationnel. L'observateur est le plus souvent une partie mentale au service, disons du gérant, ou une partie qui aide les protecteurs contrôleurs, il y en a beaucoup, à assurer notre sécurité ou notre réussite. C'est une partie de nous qui peut rester constamment en retrait et commenter nos faits et gestes ou ceux des autres. En fait, ces observateurs sont là la plupart du temps pour nous améliorer. Ce sont donc des copersonnalités dont les opposés seraient les copersonnalités plus spontanées ou instinctives, celles qui ne réfléchissent pas. Donc ces observateurs ne doivent pas être confondus avec la vision consciente ou avec le processus d'ego conscient. La vision consciente est un plan de conscience qui est ni rationnel, ni émotionnel, et surtout qui n'a aucun but et aucune préférence. Quant au processus d'ego conscient, ce n'est pas une copersonnalité. Septième et dernier point, l'ego conscient n'est pas la voie du milieu et l'ego conscient n'est pas un espace de sérénité. Non, l'ego conscient n'est pas un espace zen, c'est un espace de tension entre les opposés. Ce n'est pas non plus la voie du milieu, nous pouvons donner la priorité à une copersonnalité. Ce faisant, nous restons conscients de la valeur de son opposé et prenons soin de la vulnérabilité de cette copersonnalité opposée que nous n'avons pas choisi de suivre. Nous arrivons à la fin de la première partie. J'espère que je vous ai un peu éclairé sur ce qu'est ce processus d'ego conscient. Et dans la seconde partie, nous verrons quels sont les bénéfices de développer un tel processus. Merci, à tout de suite.